Salut, c'est Erwan. Je me permets ce petit message avant votre podcast pour vous parler du festival Silence on Joue, qui aura lieu le 25 mai prochain à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. De 10h à 22h, on vous prépare une journée qu'on espère passionnante, avec des discussions, des débats au cœur même de la Cité des Sciences, et une soirée mémorable dans un grand amphithéâtre. La billetterie est ouverte, le lien est dans la description des derniers épisodes, et vous trouverez aussi un lien vers la programmation. C'est 20€ pour la journée et la soirée, et si vous voulez juste passer nous voir en journée, il suffit d'une entrée classique pour la cité, c'est 13€ tarif plein avec éventuellement des réductions. C'est la première fois qu'on organise un truc pareil et on espère vraiment que vous répondrez présente et présent. En tout cas, nous, on a très envie de vous croiser, de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de Silence on Joue, ou de la bande-annonce, ou de Gâchette Gauche, ou de Dans la boucle. Enfin bref, bonne écoute.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Bonjour à toutes et à tous. Sven Vincke a fondé l'Ariane Studio à Gand, en Belgique, en 1996. Connu pour la série des Divinity, le studio s'apprête à sortir, dans moins d'un mois, le 3 août 2023, le plus grand jeu et le plus grand défi de son histoire, Baldur's Gate 3. C'est bon, Marius ? J'ai bon jusqu'ici ?
Ouais, tout bon. Après, il faut préciser que l'Ariane, c'est une histoire un peu compliquée. Jusqu'à 2014, le studio qui comptait une trentaine de personnes s'est spécialisé dans les jeux sortis un peu trop tôt, toujours rushés par leur éditeur, jusqu'à la sortie de Divinity Original Sin, un RPG old school qui constituait un aboutissement pour le studio et a trouvé un vrai public. DOS 2 a confirmé cet élan en 2017, et avec, l'Ariane a grossi, s'est internationalisé de façon un peu étrange.
Étrange, c'est-à-dire ?
Ils ont eu l'idée un peu chelou de créer des studios en Russie, au Québec et au Royaume-Uni pour rallonger la journée de travail. L'idée, c'était de créer des garde-fous contre le crunch, tout en permettant de travailler plus. Vu tous les coups de rush que l'Ariane s'est tapé, c'est plutôt intéressant. Du coup, on va parler de ça avec le patron du studio, mais aussi évidemment de Baldur's Gate 3. Le meilleur jeu de l'année dernière et de cette année, merci de l'Early Access. Et un truc complètement fou par son ampleur, un jeu très ambitieux, très moderne dans une vieille forme, le RPG en vue ISO.
C'est tout à fait objectif, Marius.
Tout à fait.
Tout à fait. Bon, on va pas vous faire attendre plus longtemps, on a donc eu l'opportunité de discuter pendant une heure avec Sven Vincke. C'est parti, bonne écoute. Merci beaucoup d'accepter de répondre à nos questions. On sait que vous êtes dans la dernière ligne droite pour sortir Baldur's Gate 3 un peu plus tôt que prévu, et ça va être un de nos sujets de discussion. Je précise tout de suite que le spécialiste ici même, c'est Marius qui a passé un nombre d'heures impressionnant sur l'Early Access, moi beaucoup moins, mais voilà, c'est pour dire qu'il y aura forcément un déséquilibre dans le nombre de questions de chacun. Je vais plutôt laisser la place au spécialiste, mais voilà, donc on va pouvoir commencer cet entretien.
Moi, la première question que je voudrais vous poser, c'est d'abord, en commençant par vous citer, vous avez dit « Toute ma vie, j'ai été en retard, j'ai toujours rêvé de faire quelque chose comme ça. » Et là, vous avez annoncé que le jeu qui était censé sortir le 31 août arrivera le 3. L'Ariane a une histoire assez longue, surtout durant les 15 premières années de jeux sortis dans la précipitation, de façon forcée par des publishers, quelque chose qui avait l'air d'être assez douloureux. Qu'est-ce qui s'est passé pour que d'un coup, maintenant que vous êtes enfin libéré d'un éditeur, c'est vous qui précipitez la sortie du jeu ?
Y a plusieurs raisons en fait. La grande décision qu'on a prise, c'était qu'on n'allait pas faire les plateformes en même temps. C'était le grand changement. Initialement, on voulait faire du SimChip sur PS5, PC, des autres plateformes. Et là, on a décidé, ça va pas aller, on va devoir les séparer de l'un à l'autre. Et alors du coup, on était avec une version PC qui était mieux avancée, qui était plus près que le reste des versions. Et alors du coup, ça se met que ça devient possible de le faire. C'est une période très compliquée au niveau de sortie et la compétition pour le temps des joueurs. Je me rappelle pas, pour être honnête, je pense que ça fait depuis la fin des années 90 qu'on a eu une année où on a eu tellement de grands jeux qui se lancent l'un après l'autre après l'autre. On a eu Zelda, Diablo 4, Final Fantasy, Starfield, Cyberpunk, le grand DLC qui se font. Il y en a encore quelques-uns que j'oublie et je suis pas encore en octobre. Et alors, il y a nous aussi, évidemment. Alors, quand on regardait ça, on regardait la version PC, on s'est dit, OK, ben, si on sort le jeu début août, il y a le temps du joueur, ils vont avoir le temps parce que Baldur's Gate 3, c'est un très grand jeu, avec vraiment beaucoup de possibilités, beaucoup de profondeur. Et alors, ça nous a permis de le faire, comme ça. Et alors, du coup, ça nous donne l'option de se focusser d'abord sur la version PC, ça enlève la pression du développement parce que comme on a maintenant la version PS5 qui vient un peu plus tard, ça nous donne l'opportunité de après focuser là-dessus, de finaliser tout ce qui doit être finalisé et puis après on va bien voir que les autres versions.
Une question qui se pose aussi en rapport avec la question de la sortie, c'est la question du scope du jeu. Pareil, l'Ariane, j'ai l'impression qu'il y a eu toujours tendance à faire enfler des projets qui étaient au départ assez modestes. Et au point que ça devienne des jeux énormes, c'est un peu l'histoire de Divinity Original Sin qui était pensé comme un petit jeu d'une dizaine d'heures au départ et qui a dérivé grandement. Comment là vous avez géré la question du scope de Baldur's Gate ? Parce que même là, dans le trailer du PC Gaming Show, on voyait un des directeurs de l'écriture, enfin du world building, qui expliquait que le jeu, toute la ville était seamless. Et il le dit avec une espèce de sourire crispé qui laisse entendre que non seulement c'était pas prévu au départ et que ça s'est pas fait sans heurts, quoi. Que c'était quand même énormément de boulot.
Oui. Ça a été énormément de boulot. On a toujours été un développeur quand tu as le triangle de temps, budget, qualité, qui essaye de mettre les qualités, celui-là qui ne bouge pas, ça veut dire que temps et budget doivent bouger. Ici, quand on a commencé au jeu, les ambitions étaient immédiatement grandes. Alors, ça devait être vraiment un grand RPG parce que c'est Baldur's Gate 3. Il y a des gens qui ont entendu pendant longtemps, longtemps pour ce jeu. Et on voulait faire honneur, on voulait convertir le Player Handbook dans un jeu vidéo, approachable, 5th edition. On voulait aussi que ça allait être cinématique. Et on voulait surtout qu'il y avait une profondeur de choix et réaction aux conséquences. Choix et conséquences, je pense, c'est comme ça qu'il faut le dire. Alors, ça nécessite évidemment pas mal de développement et la façon qu'on l'a fait, on s'est dit, quand on sent qu'il y a quelque chose qui manque, on va le mettre dedans parce qu'on veut, quand tu vas jouer à un rôle, on ne sait pas quel rôle tu vas jouer, mais on va faire un jeu où tu vas te sentir qu'il y a un Dungeon Master qui est toujours là pour te donner une bonne histoire. Et évidemment, c'est énormément de travail parce qu'on a mis pas mal de choses dedans. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec 174 heures de cinématique, qui est insane, si on y réfléchit, mais qui avait besoin, sinon ça faisait pas cette vision, elle était pas réalisée comme on le voulait. Alors du coup, on a dû scale up pour pouvoir le faire, mais on était ambitieux avec ce jeu. Alors pour le commentaire de Farang sur la ville, c'est juste, initialement, la ville, elle existait comme des petites poches qui étaient connectées. Mais ça ne sentait pas le même jeu qu'on avait donné aux joueurs au début du jeu. On avait acte 1, acte 2, c'était là, c'était plutôt, ouais, comme acte 1 où tout est seamless. Bon, il y a évidemment un moment où tu dois charger, mais c'est quand même assez seamless pendant 20-30 heures. Et ça, ce n'était plus le même jeu. Tu vois, alors, c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, bon, ben, on doit les connecter. Ce n'est pas vrai que toute la ville est seamless. Il y a un morceau qui va être chargé dans un autre morceau, mais c'est presque seamless. C'est comme un peu le que tu as en acte 1. Je suis sûr que c'était le bon choix parce que c'est vraiment cool. Ça nous a pris plus de temps de le faire, c'est vrai, mais bon, c'était notre choix comme studio parce qu'on veut avoir un jeu complet à la sortie. Dans le passé, on a eu souvent que nos derniers actes n'étaient pas le meilleur et on a dû sortir des éditions définitives après. Ici, on voulait que l'acte 3, en fait, c'était quelque chose où tu vas rentrer dans la ville, tu attends toute ton histoire. Tous les NPC, ils en parlent tout le temps. On voulait que tu voyais les conséquences de toutes les actions que tu as faites au début du jeu à la fin. On voulait vraiment que tu pouvais dire, bon, j'ai joué ce rôle-là, ça était à la fin du jeu, ça réagit sur le fait que moi, j'ai joué ce rôle-là. J'arrive là comme soit celui-là qui va être le dictateur ou je suis là qui va sauver la ville. Et ça nécessitait pas mal de développement, c'est correct.
Du coup, c'est quoi si la variable, c'est pas la qualité, c'est le temps qui... C'est ça.
Ça nous a pris 6 ans. On a été... En fait, hier, c'était 1000 jours en Early Access. alors, c'était... n'était pas prévu. Faut aussi dire... Quand on regarde le temps, parce que on a évidemment eu on a Covid, on avait un studio en Russie qu'on a dû fermer les premières semaines de la guerre. Ça nous a affecté aussi évidemment. Hein. Ce n'est pas que des choses qui sont si évidentes que ça.
Ça justement, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu tout le pipeline qui a été mis en place chez Larian avec l'internationalisation du studio, oui. Les raisons de cette extension? Et comment ça s'est fait est-ce qu'il y a eu des difficultés de mise en place, notamment la question ukrainienne qui a surgi. Nous expliquer un peu comment vous fonctionnez avec ces journées de 17 heures.
On avait déjà fait ça pour DOS 2. Ouais. DOS 2 a été fait en 2 ans et un peu, grâce à ce système qui était en place. L'idée de base est assez simple. On fait des grands jeux. Si les gens ils peuvent continuer à travailler pendant que nous, on dort ici au Ouest, on va avoir plus de développement qui peut être fait sur moins de temps. Évidemment, c'est pas si évident que ça, parce qu'il y a des choses de système de communication, des processus de communication qui doivent être mis en place. On a appris que ça marche bien pour certains trucs, ça marche pas du tout pour des autres trucs. On a dû s'adapter là-dedans.
Alors, par exemple, c'est quoi où ça coince
Par exemple, si tu fais character art, travailler sur un modèle, ça c'est quelque chose qui est très personnel vers l'artiste. Tu vas pas le transmettre d'aller de studio en studio avec le soleil. Mais ce qui marche bien, par exemple, c'est QA, où tu peux commencer. Les jeux qu'on fait, ils sont plus que 100 heures. Mmh. 100 heures, s'il y a un testeur normal, il va y mettre 3 semaines au moins pour y passer. Alors, si tu le fais que ça peut se faire presque 24 heures, tu peux le faire dans 1 semaine. Évidemment, tu vois bien pour la qualité du jeu, que ça fait une très grande importance. Le plus vite que les programmeurs, les scripteurs ont le feedback, ce qui n'est pas bon dans le jeu, le plus vite ils peuvent le corriger. Plus d'itérations que tu peux faire, mieux que la qualité du jeu va être. Qui est nécessaire pour un jeu si grand que le nôtre, parce que Baldur's Gate 3, je pense que la plupart des gens, ils vont passer un mois full time pour y arriver. À la fin, s'ils vont jouer. Alors, c'est un jeu que tu vas jouer pendant longtemps. Si on ferait ça, ça nous prendrait un mois pour faire le test, ça prendrait un peu trop longtemps. Alors, on a installé ça. Alors, ça, c'est un exemple d'un processus qui marche bien comme tu passes de studio à studio. L'autre chose que tu as avec les plusieurs studios, c'est que tu as le recrutement de talents. On a un studio très divers avec beaucoup de nationalités qui travaillent dedans. Ça se monte dans le jeu. On a fait un monde Donjons et Dragons qui est très divers aussi. Alors, quand tu... Les deux choses ensemble, tu vas le voir. Tu vas voir, ça n'a pas été fait en Belgique, ça. C'est sûr. Tu vas le voir quand tu vas jouer le jeu. Alors, c'est un désavantage. Et puis, tu as... t'as des challenges dedans, des communications, évidemment, des choses qui n'ont pas été transmises dans une autre time zone. Là, tu as les difficultés. Pour répondre à ta question de l'Ukraine, quand ça s'est arrivé, on a immédiatement dit on va fermer le studio. On a délocalisé presque tout le monde qui était dans le studio. Ils ont déménagé dans les autres studios. Mais évidemment, ça pour eux et leur famille, c'était un grand upset. Alors c'était pas une période facile. Mais bon, ça a réussi, je suis content parce que il y a des gens qui ont pris des risques aussi pour s'échapper à ce moment-là. C'était pas prévu évidemment.
Oui, parce que c'est des équipes russes qui étaient dans le studio de Saint-Pétersbourg, c'est pas des
Ouais,
c'est ça.
Des équipes russes, mais aussi on avait pas mal de gens ukrainiens dans notre équipe non plus.
Alors, d'accord.
Tu sais, les gens, ils sont tous jeunes dans notre équipe, alors ils allaient tous devoir aller en armée. Mmh. D'ailleurs, il y en a plusieurs qui ont été convoqués après, quand ils sont partis, alors c'était important qu'ils étaient partis.
Ok. Et le développement, ça s'est fait d'un coup ou pas, l'extension entre Saint-Pétersbourg? Il y a d'abord eu Saint-Pétersbourg, Québec, Dublin, c'est ça?
Oui,
c'est après, correct. Et après, Kuala Lumpur et Barcelone. Et les problèmes...
Et Angleterre.
Ouais. Et les problèmes sont les mêmes d'un endroit à un autre ou...
Il y a des différences culturelles aussi. Si tu as Est et Ouest, ce ne sont pas les mêmes cultures dans lesquelles les gens sont nés. Alors, dans un pays, quand on dit non, ce n'est pas le même non que dans un autre pays. Mm. Alors, tu dois apprendre à gérer. Mais ça, je pense que ce sont des choses classiques qui sont en plus enrichantes. Pas vraiment. Je pense que... On en a déjà fait plusieurs maintenant des studios. Je pense que ça prend toujours quelques temps avant que le studio est complètement intégré. Les derniers deux studios, c'était des acquisitions. C'était des studios qu'on a achetés. Alors, à la fin, on trouve toujours un équilibre où les gens qui sont comment je dois pas appeler ça, un écosystème pour utiliser un cliché, qui se trouvent le chemin dedans. On a une autre façon de faire les choses. Les gens, ils n'ont pas l'habitude que dans le triangle qualité temps budget, c'est toujours qualité. C'est quelque chose que c'est. On a la réputation d'être très itératif. Ça veut dire qu'on refait les choses beaucoup. Faut vouloir le faire. Ça doit être. C'est pas pour tout le monde, mais c'est quelque chose qui est important pour nous parce qu'on veut à la fin du chemin que tu as un jeu qui vraiment te respecte comme joueur.
Et ça, justement, c'est présenté comme une des philosophies de l'Ariane, ce principe d'itération. Est-ce que vous parvenez à le faire de la même façon aujourd'hui qu'hier? C'est peut-être plus facile de demander à son collègue de bureau à Gand, avec qui on passe beaucoup d'heures, d'oublier son travail et de dire « Allez, on reprend tout à zéro », que de demander à une équipe qui est à Kuala Lumpur, qui vous a peut-être pas jamais vu ou très peu, de dire « Bah finalement, on va tout écraser ». Est-ce que cette culture-là, même si dans le principe, on peut être OK, ça passe aussi bien dans la pratique?
On a appris à décentraliser. Alors dans la philosophie ultime, c'est comme un cloud des agents individuels qui travaillent dans un jeu. Et on s'est organisé comme ça aussi. Et alors ça marche de mieux en mieux. On se connaît aussi. On voyage beaucoup. C'est pas qu'un studio, c'est un alien des autres studios. Il y a beaucoup de cross-mingling et des gens qui vont pour transférer de l'information et de la connaissance, de l'expérience. Il y a beaucoup de gens du studio qui vont travailler dans les autres studios. Comme ça, ça reste une équipe. Il y a des gens, définitivement des gens qui viennent des productions AAA ont du mal avec. Parce que là, c'est plutôt une mentalité usine. Allez, je peux pas le dire comme ça, mais c'est plus organisé façon, tu as X temps, tu peux travailler X temps là-dessus. Pendant que chez nous, c'est plutôt « Ah, ben, on va faire ça. » En fait, c'est l'expérience qu'on cherche, c'est ça. « Ah, ça ne marche pas vraiment, il faut peut-être qu'on change ça, ça. » On a essayé plusieurs fois, ça ne marche pas. Mieux d'abandonner, on a appris si tu as essayé X temps et que ça ne marche pas, c'est probablement qu'on avait la mauvaise idée pour commencer. Mais en même temps, tu as aussi, on les envoie et puis ils reviennent avec quelque chose d'autre que tu as demandé, c'est fantastique. Ça marche mieux, on a plus ces histoires-là qu'on a des choses qu'on doit refaire. Mais c'est une façon de penser, de développement, qui est pas, il y a pas tellement de boîtes qui le font. Alors, c'est le fait que c'est tellement dans la philosophie de la boîte, il faut s'adapter. Mais une fois que tu l'as, j'ai plein d'exemples en BG3 qui sont fantastiques où ça a été fait. Un des exemples que je suis en train de faire maintenant avec, je fais des tours de presse, en train de démontrer le jeu. Il y a, dans une certaine situation, c'est possible d'être tourné en du fromage. Elle pourrait être transformée dans, polymorphée dans du fromage. Et puis tu peux contrôler le fromage et tu navigues dans le monde comme Pac-Man. C'est fantastique. Et le truc, c'est que tu vas l'accepter, tu vas dire, mais c'est, oui, évidemment, j'ai été transformé en fromage. C'est ce qui devait se passer ici. Et dans la même situation, tu peux avoir, tu peux être téléporté à Chult, qui est le monde de Jurassic Park en Donjons et Dragons. Et c'est insane. Et tu te dis, mais d'où est-ce que ça vient? Ben, c'était cette équipe-là qui travaillait là-dessus, qui avait eu X temps pour travailler sur cette situation. qui a complètement commencé à déconner, en fait quelque chose de très beau, bien interwoven avec le reste de l'histoire. Et comme joueur, quand tu le découvres, tu dis, mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Et tu continues à dire, c'est pas vrai, et c'est fantastique. Tu vois? Alors, et puis, les autres, ils ont sauté dessus, ils ont dit, ah, ça, c'est cool, ça, vient, on va faire ça, ça et ça. Et puis, ils l'ont enrichi. Et c'est ce qui rend le jeu tellement spécial. On avait déjà ça dans nos précédents jeux aussi, mais c'est ce qu'on cherche. C'est la philosophie, elle est en place pour trouver ces moments-là. Et puis, beaucoup d'itérations, c'est alors de faire comment est-ce qu'on fait que toutes ces choses-là, ils marchent ensemble dans une vision, dans une direction claire et nette, que le joueur, il a un bon sens de ce qu'il doit faire, mais il sait, je vais explorer et je vais être surpris à chaque pas. Et c'est ce qu'on cherche dans ce qu'on fait, parce que quand tu es à la table avec un Dungeon Master, c'est exactement ce qui va se passer aussi.
Ouais. Ouais. Et tout ce pipeline-là qui a été mis en place au départ, c'était pour éviter le crunch, c'est ça?
C'était une des raisons. L'autre raison, c'était de recruitment. Ouais. Parce qu'on est en Belgique, alors ce n'est pas si évident de trouver des développeurs avec beaucoup d'expérience par ici. C'était aussi pour mettre le 24 heures en place simplement, parce que même si tu fais des crunchs, tu vas pas travailler 24 heures sur 24 heures. Alors, mais c'était la raison principale.
Et finalement, vous avez réussi à tenir un zéro crunch, ou en tout cas à limiter?
Définitivement limité. Quand tu compares dans les productions avant, on a certains limités. On a eu nos accidents, il y a toujours des choses qui ne marchent pas. Alors, à un certain moment du temps surplus, c'est la seule chose qui reste pour faire. Mais c'est, quand tu regardes les statistiques, c'est vraiment, vraiment, vraiment limité comparé à les anciennes périodes. C'est souvent maintenant aussi, maintenant on est à la fin, c'est sûr qu'on fait du extra time, mais on a souvent qu'on passe quelque chose à Québec, et puis on sait que ça a passé à KL, que ça a été testé, quand on arrive le matin, que c'est là, tu sais ce qui est le problème, ou tu sais que ça a été résolu, la feature a été implémentée, alors... on l'avait déjà avec DOS 2. C'est vraiment un luxe une fois que le système commence à marcher.
Une question sur le système d'itération aussi. Est-ce que le fait que vous soyez en early access si longtemps, il y a aussi une forme de garde-fou pour éviter de tout reprendre, enfin au moins éviter la tentation de reprendre le début du jeu de zéro parce qu'il y a eu une idée super, ou pas du tout?
On a toujours l'intention, quand on commence, de refaire le début. parce que c'est qu'à la fin de ta production, tu sais comment tu dois faire ton début. Mais si tu fais pas un début pour commencer, t'as pas de début. Alors t'es obligé de faire un début et tu sais que tu vas le refaire. Et ici, on l'a refait notre début. Et je pense qu'il est beaucoup mieux notre début. Tu vas bien voir quand ça va sortir. Je pense que ça, c'est quelque chose de nécessaire parce que tu développes tes outils, ton langage avec lesquels tu communiques avec le jeu pendant ton développement. Et on dit ça. Nous, on va en early access pour intégrer la communauté dans le jeu. On veut avoir leur feedback. Ils nous ont corrigés à plusieurs pas. Parfois, on pensait qu'on savait mieux d'eux. Ils nous ont remis sur le bon chemin. Parfois, ils avaient tort. Ils disaient une chose et on voyait dans les analytiques qu'en fait, ils faisaient l'autre chose. Alors, on dit on va garder ça parce qu'on sait ce qu'ils veulent, même s'ils disent l'opposé.
C'est quoi, par exemple, ce genre de...
C'est des choses de balance. Hein. Ils disent « Oh, c'est trop facile, c'est trop dur. » Je dis « Oui. » Parfois, aussi, c'est des choses que... des gens qui râlent sur une chose, mais en fait, c'est un problème ailleurs. Tu vois, pour ça, Early Access, c'est fantastique. Tu découvres tellement de ton jeu avec une grande communauté de joueurs qui sont involved parce qu'ils ont acheté le jeu, ils te donnent du feedback. Et on a bien appris ça avec le premier Original Sin, et puis là on a commencé à le faire, de les écouter. Ils apprécient aussi le fait qu'on écoute, de pas toujours écouter, parce que parfois ça ne marche pas, mais de certainement, si on a tout le monde qui nous dit de changer, parce que si on change pas et on voit qu'il y a un problème, ça va être un problème à la fin quand le jeu va sortir.
Et ça, c'est facile de dire non aux joueurs?
Non.
Dire non aux attentes, je sais pas, l'exemple qui me vient en tête, c'est le niveau maximum qu'on peut atteindre dans Baldur. Je crois qu'au début, il était capé à 10.
Oui.
Et finalement, ce sera autour de 12.
Oui.
C'est une façon de céder aux attentes des joueurs, ou c'est...
Non, le jeu n'en a besoin.
Ouais.
C'est parce que la taille du jeu, il y a un certain cadence, un certain rythme dans lequel tu dois niveler. Quand on a commencé à faire le jeu, j'avais très peur qu'il y avait que 10 niveaux. Parce que je dis, qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est pas ce que les gens, ils ont l'habitude maintenant. Aujourd'hui, c'est vraiment ding, 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 ding. C'est comme Crazy Frog. Quand ça vient au niveau de leveling.
Niveau 90.
Ouais, mais, c'est maintenant, c'est le faire si lent. Mais ça a marché, quoi. Alors, c'était pas grave. Mais le jeu en avait besoin quand même un peu plus que 10. Sinon, ça n'aurait pas marché. Alors, en plus, au plus haut niveau, tu as quelques cool sorts qui viennent dans ton répertoire avec lesquels tu peux faire des cool conneries.
Je vois là.
Comment, pour revenir au tout début, comment est-ce que vous avez réussi à décrocher la licence Baldur's Gate? Et pour avoir peut-être un peu plus de contexte, moi je suis très très curieux de savoir, ça ressemblait à quoi ce que vous aviez en main? Quand vous allez voir Wizard of the Coast ou quelqu'un d'autre, je ne sais pas, mais quel document, on veut faire Baldur's Gate 3, vous aviez quoi? Vous aviez un concept art, vous aviez trois feuilles de script, ou vous aviez déjà une bible qui décrivait tout le jeu, ou en tout cas votre ambition? Ça ressemblait à quoi? Qu'est-ce que vous aviez en main au moment de décrocher ça, en fait?
Et vous l'avez fait quand? Est-ce que c'est après la sortie de DOS 2, ou est-ce que c'est pendant le développement?
Non, c'est la plus dingue. Okay. Ben, l'histoire commence après DOS 1. À DOS 1, je vais à GDC et je vais les voir et je leur dis, vous devriez nous donner la licence. Voici ce qu'on a fait, c'est DOS 1. C'est le plus proche qu'il y a. On va casser des trucs, je sais pas comment il faut dire, mais c'est le plus proche qu'il y a en ce que vous avez fait. Si vous voulez faire un Baldur's Gate 3, c'est sur notre système qu'il faut le faire, ça va bien marcher. Et on les a plus entendus. Le pitch était raté. Sauf que en 2017, pendant qu'on est en train de finaliser DOS 2, il me téléphone et il dit, est-ce que tu veux venir à Seattle? Et j'ai été à Seattle. C'était dans un bar assez louche. Et ils m'ont donné des feuilles A3 imprimées. Et je regardais et c'était tout mon concept que je leur avais expliqué il y avait quelques années plus tard avant. Pour Baldur's Gate 3, ils disent, voilà, on va le pitcher au board, est-ce que tu es game? Je dis, ben, oui. ça s'est fait, ça c'était fin 2016. Et puis, on a fait un deal, on devait, comme ça va, avec les grandes corporations, le pitch initial, qui était un document de design de 50 pages, devait être écrit la semaine avant la sortie de DOS 2. Et alors, en fait, ce qu'on a fait, on était, parce que mes écrivains, ils étaient ici, et on a été écrire dans une chambre d'hôtel pendant quelques jours. On s'est enfermé et on a dit, voilà, on va faire un writer's room, on va écrire ce concept. Ouais, c'était quelque chose d'autre que DOS 2. Et on va voir ce qu'ils en sortent, qu'est-ce qu'ils en pensent. Au moins, on l'a envoyé. Mm. Hein. Alors après, ils ont dit, ben, je pense que vous devez encore y travailler dessus. Je dis, ouais, je pense aussi. Ils nous ont donné plus de temps. Et puis, à ce moment-là, DOS 2 était sorti. Alors, on était plus frais dans nos esprits. Alors, on est retourné à Seattle. Et puis, on a écrit là-bas, de retour, dans un hôtel, le concept qui est venu BG3, en fait. On avait déjà pas mal d'idées en tête, mais là, on les a convaincus, on a rencontré l'équipe. Il y avait un bon clic entre les deux, beaucoup de confiance, en fait, je dois dire. Et ça a toujours été comme ça, on a toujours eu leur confiance. Ils nous ont laissé assez tranquilles. Ils ont changé des choses si on demandait. Il y a eu des sorties du livre de Stand Into Avernus. Ça allait bien avec ce qu'on était en train de faire. Alors, il y avait un bon match, même au niveau du système, qu'on disait, ça marche pas très bien, on voudrait bien changer comme ça, et puis ils l'ont repris, Unearth Arcana pour voir si ça marchait, et comme ça, il y a un bon truc, et ce qui est sorti, je trouve que c'est vraiment un truc cool.
Et de votre côté, pourquoi avoir demandé Baldur's Gate plutôt que Ultima, par exemple?
Quelqu'un a fait sa recherche. Figure-toi, non, je peux pas en parler. Baldur's Gate, rappelle l'histoire que je vous viens de raconter, c'était, on a fait la licence de Baldur's Gate 3 avant que DOS 2 est sorti. On n'avait aucune idée si DOS 2 allait avoir du succès. Et pour l'arène, c'était important si on voulait faire de la croissance. pour pouvoir faire le jeu qu'on veut faire dans le futur, qu'on avait quelque chose qui était plus grand que DOS allait être, que DOS 1, DOS 2. Et alors, il y avait quelques opportunités. Et Baldur's Gate sortait immédiatement hors du paquet parce que c'était une licence pour laquelle que j'aurais énormément de motivation dans l'équipe parce qu'ils jouent presque tous Donjons et Dragons. Alors, c'était très facile. Le moment que je l'ai annoncé ici, il y en a qui sont presque tombés dans les pommes. Et c'était aussi très facile avec DOS. Une des choses qu'on avait appris, c'est assez important d'avoir un monde et que tu ne dois pas commencer à inventer tout. C'était beaucoup de boulot. Quand tu fais un jeu de 100 heures, c'est quand même pas mal du boulot. Et alors, l'idée d'avoir quelque chose qui était déjà là, sur lequel on pouvait se baser, était très attractif. Alors, on a presque sans trop réfléchir, on est roulé là-dedans, tu vois, parce qu'il y avait l'équipe était game pour faire un Donjon et Dragon, pour faire Baldur's Gate 3. Ils étaient fans, ils ont nié là-dessus. Il y avait au niveau de design, on devait pas réinventer la roue. En fait, on avait la base de tous les roues était là. C'était Donjon et Dragon, 40 ans de Donjon et Dragon dans lequel on pouvait taper. On avait une équipe, un Wizards qui était vraiment ouvert d'esprit, qui écoutait nos idées, qui nous allait nous laisser faire ce qu'on voulait faire, qui n'est pas nécessairement la même avec des autres licences qu'on aurait pu faire. Tout ça ensemble, ça nous donnait le bon mix pour le faire. À ce moment-là, évidemment, personne n'avait pensé que ça allait prendre 6 ans. On pensait tous que ça allait prendre 3-4 ans au max, mais jamais 6 ans. Mais bon, il y a eu les choses qui sont passées. Mais je dois dire, pendant tout ce temps-là, parce que j'entends et j'ai lu beaucoup de choses sur Wizards, ils ont été vraiment avec nous, ils ont été nickel.
Je voudrais rebondir sur cette histoire pas de lore préexistant, mais de tout un ensemble de règles qui est déjà posé. Dans quelle mesure c'est facile de naviguer sur cette 5e édition de Donjons et Dragons, parce qu'on a un manuel de 322 pages, c'est un petit peu détaillé. Et sauf que quand on joue à un jeu vidéo, on n'a pas envie de se fader 322 pages de tutoriel. Et du coup, comment vous avez travaillé ce l'onboarding dans le jeu, la façon d'arriver dedans et de comprendre les règles sans avoir à les... Enfin, tout expliquer sans avoir à rendre le truc trop compliqué et comment on gère aussi l'early access où j'imagine, ou en tout cas du point de vue joueur, on a vu le système se complexifier. Mais le danger, c'est captivant quand on joue déjà au jeu, mais le danger, c'est que ça devienne une forêt si dense que le nouveau joueur, il soit complètement paumé et qu'il trouve pas ses petits, quoi. C'est quoi l'équilibre?
Le principe de base, c'est easy to learn, hard to master. Une boule de feu est une boule de feu. Elle fait du dommage de feu. Maintenant, il y a plein de façons que tu peux augmenter ce que tu vas faire. Et ça, c'est ce que tu vas apprendre pendant que tu es en train de jouer. Un des trucs qu'on a fait, c'est qu'on laisse le IA te montrer ce qui est possible dans le jeu. Tu vois, tu as une intelligence artificielle qui commence à faire des choses et qui te dit « Oh, wow, c'est possible ça. Ah, ben je dois essayer ça aussi. » Et ça marche assez bien. On a aussi investi énormément dans le user interface. On va faire notre panel from hell bientôt, dans quelques journées. Je ne sais pas quand ça va sortir, le podcast, mais... là, vous allez voir que le jeu a encore évolué très fort depuis ce qu'il y a dans patch 9 en termes de UX, en termes de UI. On a appris énormément de choses sur les concepts que les gens ne comprenaient pas avec le early access. Et on a eu travaillé très fort pour essayer de les rendre compréhensibles.
C'est quoi, par exemple, les points les plus compliqués? C'est quelque chose comme la concentration?
C'est facile, hein. Au début, tu demandes c'est quoi advantage? Alors, tu as toutes les théories du monde. Sauf la bonne. C'est quoi armor class? Encore une fois, toutes les théories du monde. Et puis, il commence à dire, ah non, c'était pas advantage, ça. Ça, c'était encore plein. Et puis, si tu demandes saving throw, c'est complètement perdu. Alors, ça, c'était les trois concepts qui sont assez importants au fond du jeu. Mais ici, je pense que maintenant, quand on voit avec les joueurs, en tout cas, on a beaucoup de playtesters avec qui on est en train de tester aussi le jeu. Tu vois que ça marche, et même assez facile. Alors je pense que l'équipe ça c'est chez nous, ça s'appelle les system designers, qui sont responsables pour ça. Ils ont fait un énorme boulot pour rendre plus que 600 sorts et actions dans quelque chose que les gens y comprennent. Une des choses qui est, parce que tout le monde parle toujours de la complexité du player handbook, Mais ce que les gens, ils oublient là-dedans quand ils disent ça, c'est que c'est la base de presque tous les jeux vidéo modernes. Le système même. On a déjà dans nous.
Il y a un langage. Il y a un langage qu'on connaît déjà, ouais.
Ouais, exactement. Alors, le truc, c'est de trouver comment est-ce que je te dis, voilà, ça, c'est ce que c'est. Mais dans ce monde-ci, tu peux faire encore ça et ça avec. Et puis, en le montrant, ce que c'est l'intelligence artificielle fait, et en ne pas exigeant du joueur qui comprend tout pour pouvoir le jouer, tu vois qu'il se retrouve assez facilement et puis, au fur et à mesure, ils apprennent assez vite. Et je dois dire maintenant, avec le onboarding, on va voir. Hein. Pour nous, c'est assez excitant, on va voir si ça va marcher, mais on est assez confiant que ça marche bien.
J'étais curieux de vous entendre aussi sur la question de l'équilibre entre le savoir-faire de l'Ariane et la peur de se répéter, de refaire la même chose. Il y a presque une blague au début, enfin en tout cas dans la version en early, avec ouais. Le début sur la plage, qui est quand même quelque chose qu'on a déjà vu.
Ouais, bah, tous les jeux qu'on va faire vont commencer sur la plage.
comment vous gérez cet équilibre entre... le fait d'apporter des choses que les joueurs connaissent, que les joueurs fidèles de l'Ariane connaissent, réutiliser des systèmes que vous maîtrisez parfaitement, et l'envie de grossir et de ne pas vous répéter. Là, le défi, c'était quoi? C'était juste de faire un... Enfin, juste, entre guillemets, hein. Mais de faire le RPG classique ultime ou,
La vision était simple, hein. On prend la liberté de DOS 2, on le met en Donjons et Dragons et on le fait de façon cinématique. et en fait, plus de choix et de conséquences. Ça, c'est, si tu veux, en un nutshell, la façon que nous, on communique en interne sur le jeu. C'est important de pouvoir le faire, sinon, si tu ne sais pas le faire, tu ne vas pas avoir la vision qui va rester dedans. En exécution, c'est un peu plus compliqué que ça. On a toujours dû rigoler. En interne, on était frustrés parfois aussi quand les gens ils disaient « Oh, c'est DOS 2 ». Parce que nous, on savait ce qu'on avait changé, c'est tout. Sauf qu'on a commencé avec le moteur DOS 2. Ce serait dingue de ne pas commencer avec le moteur DOS 2. Alors, tu voyais des choses qui étaient ressemblantes, mais si tu regardes le jeu maintenant, ouais, miles away. Tu touches à BG3 aujourd'hui, tu dois être de vraiment mauvaise foi. si tu veux le dire. C'est un jeu cinématique avec son système de combat qui est Donjons et Dragons. C'est beau. C'est une histoire très différente. Tu peux jouer avec tes copains, comme DOS 2, c'est vrai. Ça, t'as la même chose, mais c'est tout à fait un autre jeu. Ah, ça du tour, t'as partout. C'est la même chose aussi, mais bon. Ça voudrait dire qu'on a la même chose que XCOM ou Into the Breach ou je ne sais pas quoi.
Dans quelle mesure on a l'impression, enfin, encore une fois, on n'a qu'une vue biaisée du jeu, mais qu'il y a 90% du travail qui est effectué, peut-être pas 90%, mais qu'il y a une grosse partie du travail qui est effectué qui ne sera vu que par 10% des joueurs. Comment vous gérez cet équilibre-là? Dans quelle mesure ça représente trop de travail pour très peu de vues, entre guillemets. Et donc, ouais. Et à l'inverse, est-ce, dans quelle mesure ça, c'est le centre du projet, en fait?
Ben, c'est plutôt la dernière chose, hein. C'est le centre du projet. Qu'est-ce qu'on veut qu'un joueur qui joue Baldur's Gate 3 a comme sentiment quand il sort de sa session, quand il parle avec ses potes dessus? C'est qu'il raconte une aventure qui est complètement différente de celle d'aventure que son ami a fait. Parce que les aventures, ça se définit par ton identité, qui tu es, comment tu commences à jouer le jeu, et le choix que tu as fait dans le jeu. Tu as la même histoire, tu as le même monde, mais tu pars d'une même base, mais ça doit être une autre aventure quand tu joues. Et on a mis énormément d'efforts là-dedans. Maintenant, si tu veux faire que tu as une histoire qui respecte tes choix, respecte ton identité, il faut qu'il y ait beaucoup de variations et beaucoup de permutations qui sont dedans, et surtout qu'il y ait beaucoup de réactivité à ce que tu as fait, sinon tu trouves pas que tu as ton engagement qui est là. Alors du coup...
Réactivité, c'est-à-dire qu'il faut que ça se voit, c'est ça? Qu'on voit tout de suite les conséquences, c'est ça?
Pas tout de suite, parce qu'il y a des conséquences long terme et court terme. Mais il faut les deux, parce que s'ils sont trop long terme, tu vas pas savoir que ça a des conséquences, tu vas plus y croire. Si tu n'en as pas de long terme, tu dis, ben, c'est tout du faux. Ça doit être les deux choses. Et si Baldur's Gate 3 te l'offre ça, la ville est très différente dépendant de ce que tu vas faire pendant le début du jeu. Ton acte 2 est très différent dépendant de ce que tu as fait en acte 1, ton acte 1. Même les compagnons avec qui tu vas voyager, comment ils vont s'occuper de toi, ça peut être très, très, très divergent. Je pense que les gens ils vont encore être étonnés en fait, au niveau que ça va se diverger. Mais si tu le fais pas, ça marche pas. Mais alors, si tu le fais, tu dois l'embrasser. Donc, embrace, tu dois le faire bien. Tu dois le faire à la totale. Sinon, ça marche pas. Ça vient du faux. Et tu commences à avoir plein de petits loopbacks où t'as pas vraiment de bifurcation. Et ici, on l'a fait cinématiquement, qui est assez intense. Mais c'est ce qu'on voulait faire, c'est ce qu'on voulait faire, et c'est le plus grand compliment qu'on a, c'est les joueurs qui racontent leurs expériences et sur le build qu'ils ont fait, parce qu'on a quand même 46 subclasses dans le jeu, c'est beaucoup, 12 races ou 11 races, je sais pas combien de subclasses, mais quand tu vois tout, et le jeu, c'est vraiment une promesse, il réagit là-dessus. Si moi je parle de mes expériences à moi, si moi je joue comme un Gift Druid, j'ai complètement une autre expérience si je joue à Shadowheart comme de son point de vue avatar. Alors, et je me ressens que le jeu respecte qui je suis. Il dit, ah, toi tu es un Gift Druid, alors ça veut dire tu vas avoir ça et tu vas parler comme ça. Et d'une autre façon, tu es Shadowheart, toi tu vois les choses complètement différentes. Et c'est quelque chose dans lequel on veut se spécialiser parce que c'est ce qu'on aime bien. C'est vraiment du role-playing au fond. C'est ce que ça doit toujours dû être. Et on veut faire ça, c'est vraiment un début de l'arène, d'une façon le plus immersive possible, c'est-à-dire cinématiquement. Mais quand on dit cinématique, c'est pas des trucs linéaires, c'est dynamique à mort. Quand tu regardes les dialogues, j'ai une fois fait un tweet, si vous pouvez peut-être le rechercher, où je montrais un dialogue, et c'est une scène, mais puis c'est encore plus une scène, tu te rends compte, c'est tout cinématique, c'est tout des dialogues, des options, et on a motion capture et tout, qui vont dans l'un à l'autre. Et je pense que quand tu vas regarder, une fois que tu l'as joué, tu vas plus jamais vouloir retourner à quelque chose d'autre. Tu vas toujours vouloir l'avoir comme ça. Et pour répondre à ta question précédente, c'est pour nous ça une très grande innovation. Je pense pas qu'il y a déjà eu des jeux vidéo RPG qui ont fait ce qu'on vient de faire et qui te permettent d'encore une fois jouer ça en multijoueur. Ça veut dire que tu peux prendre deux contrôleurs en split screen, avoir deux cinématiques en même temps qui réagissent sur qui tu es et sur ce que ton pote a fait. Alors, ce que l'équipe a fait ici, c'est incroyablement remarquable.
Elle ressemble à quoi, la Bible de Baldur?
Non, on n'a pas vraiment de...
Vous avez un document général avec...
Non, on a des milliers de documents. non, on a un Confluence, on a des bases de données qui sont spécialisées simplement pour gérer des aspects de... C'est le côté le moins cool du développement, c'est la documentation qu'il y a derrière tout ça, mais c'est des dizaines de milliers de pages. C'est même pas 100 000 à mon avis. Mais on a un système qu'on a développé, c'est pas parfait, hein, on fait des fautes aussi, on apprend ce qu'on fait, mais on a quand même un système qui est assez robuste. On sait, c'est pas qu'on a fait ça pour la première fois avec BG3, hein, tout ce qu'on a fait précédent, depuis toute l'histoire de l'arène, c'est faire des RPG et gérer de grandes quantités d'histoires et de permutations. Alors on s'améliore et on s'améliore à comment on la gère.
Moi, ça me fascine de votre côté, du côté développement, où à aucun moment vous vous posez la question « je dois faire cette cinématique si le joueur est un guerrier nain et s'il a fait ça avant » et que finalement vous faites des heures de travail pour un pourcentage de joueurs extrêmement limité. Mais en fait, ce qui vous motive, c'est que cette petite part des joueurs va être ébahie de se sentir intimement concerné par ce qui se passe, ou c'est quelque chose de plus philosophique sur une vision globale de ce que doit être un RPG aujourd'hui dans le jeu vidéo?
C'est les deux. C'est simplement... je peux le défendre de beaucoup de points de vue.
D'accord.
Au niveau joueur, c'est ce que je veux jouer. C'est ce que je veux dans un jeu. C'est la première chose. Au niveau si tu veux dire, le chiffre d'affaires de l'arène, c'est le plus malin qu'on peut faire. Parce que si on réussit à le faire, c'est très dur de le faire. Alors, c'est un avantage compétitif. Mais c'est aussi quelque chose qui va faire le bouche à oreille. Quand tu vas raconter à Marius tes expériences et il va te dire, c'est possible ça? C'est pas possible. Et toi, tu dis, oui, tu fais ça. Merde. Hein? Et tu vas en parler. Alors, les gens, ils vont en parler. Il y a tellement d'histoires qui sont là à découvrir. Alors, t'as quelque chose d'unique, quoi. C'est quelque chose et des choses uniques qui sont cool et intéressantes à faire. Les gens, ils aiment bien jouer, quand ils sont un vrai genre. Alors, c'est à nous de faire que c'est complet, que tout le monde, n'importe quelle aventure qu'il a, qui s'amuse avec, et ça nous permet pas de faire des compromis. Parce que si on fait des compromis, on commence déjà à scier la patte de la chaise sur laquelle on essaye de faire notre jeu. Alors, on est obligé de le faire. Mais si on réussit, on a vu ça avec Dose 2. Dose 2 a quand même vendu pas mal. On voit qu'il y a un marché pour. C'est notre marché. Et alors, on voudrait rester dedans parce qu'on aime bien ce qu'on fait. Et c'est aussi, honnêtement, c'est le jeu qu'on veut jouer nous-mêmes. C'est toujours été la base.
Et en termes d'écriture, comment vous regardez Alors, on ne connaît pas trop le détail, mais Ubisoft expliquait qu'il développait un système avec l'intelligence artificielle qui permettait d'écrire des dialogues de PNJ ou des choses comme ça. Vous, ça vous semble ubuesque ou c'est... Enfin...
Définitivement, vous BG3, ils ont tous cet effet à la main. je ne veux pas dire qu'on ne regarde pas dans ce qu'il y a en IA. On a un département qui est spécialisé dans l'IA parce qu'on a pas mal de choses qu'on peut automatiser, mais c'est plutôt des choses mécaniques. Au niveau de créatif, je pense que le meilleur usage là, c'est comme ça te permet d'explorer plus de permutations plus vite, et puis tu peux prendre ce que tu trouves qui est cool dedans, et puis tu peux commencer à développer. Mais ce n'est pas très différent d'ouvrir un livre et browser des pages ou aller à un musée, aller regarder ce qu'il y a et puis commencer à mettre les choses ensemble. C'est plutôt comme ça. Mais ici, c'est dire, parce que si tu le vois pas, tu le crois pas, mais chaque phrase a été regardée 10 fois, 20 fois, 30 fois, pour être sûr qu'elle est fluente dans sa continuation, dans la prochaine phrase, dans la prochaine version. Et là, même à présent, on est à un mois de sortie, on est encore, on change plus, les enregistrements sont faits, mais on dit, cette note de question pourrait être un peu mieux parce qu'elle va mieux avec ce truc-là. On a 2 millions de mots comme ça. C'est beaucoup. C'était quoi? C'était 3 fois Lord of the Rings, je pense, tout, la trilogie. C'est des chiffres qu'on a l'habitude dans les RPG, mais sachant que c'est cinématique, ça veut dire que les phrases sont déjà plus courtes. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de contenu, c'est quelque chose que les gens, parce que t'as exposition, mais ça, c'est pas des bons cinématiques, mais t'as aussi du screenplay. Et ici, c'est 2 millions de screenplay. Le mot de screenplay, ça, c'est énorme. C'est vraiment, beaucoup.
Tout à l'heure, vous disiez que c'était votre marché, que vous aviez une niche quelque part dans le jeu vidéo. Comment vous regardez ce qui se fait ailleurs, le RPG est un peu partout maintenant dans le jeu vidéo, mais d'une façon diluée. Tout ce qui tient à la dimension narrative, c'est devenu un genre quasiment à part, déconnecté des lores de jeux de rôle habituels. Le leveling est absolument partout dans tous les jeux d'action. Et Et vous, vous tenez à une position un peu différente qui est assez qui est du vieux CRPG, mais avec une modernité dans l'écriture ou des choses. Est-ce que vous pensez que le jeu est destiné à une grosse niche de joueurs, ou est-ce qu'il peut parler à tout le monde? Est-ce que les mécaniques sont enfermantes? Est-ce que vous regardez aussi ce qui se fait par ailleurs dans le jeu de rôle et qui n'est pas du tout... Est-ce que quelque chose comme Disco Elysium, par exemple, vous l'avez fait? Vous en avez retenu peut-être des choses ou pas
Beaucoup de questions en un. Ouais. Oui, évidemment qu'on regarde tout ce qui est dedans. Disco Elysium, évidemment qu'on connaît bien le jeu. Je pense que la mal perception, on a eu la même chose avec Ghost 2, les gens ont dit « Oh, c'est du vieux RPG old school », mais je pense que c'est plutôt moderne, en fait. Mm. Je pense qu'il faut inverter ça. Il faut peut-être regarder que c'est une évolution qui n'a pas été faite, parce que c'était trop compliqué pour le faire. Et c'est là qu'on l'a ouvert. On a, avec Ghost 2, on a défini un nouveau marché, en fait. Parce que ce marché-là, il n'existait pas. Les gens marketing et tout ça, ils râlent tout le temps. C'est pas le target audience parce que vous avez défini le target audience. Il n'était pas là avant. Mais alors j'ai dit, mais il a toujours été là. Il était simplement pas servi, ce qui est classique quand il y a un nouveau truc qui arrive. S'il y avait BG3, on va voir. Je pense pas qu'il y a déjà eu un RPG cinématique comme il a ici, qui mélange le système d'une façon profonde qu'on peut la faire, qui a un impact sur tout ce qui est narratif. Et c'est notre pari, quoi. Nous, on pense qu'il y a un très grand marché pour. Peut-être on se trompe dans ce cas-là. On va aller se mettre dans un coin et repenser tout. Mais à mon avis, je pense qu'il y a, il y a pas mal. Déjà, il y a déjà super bien fait le jeu en Early Access. Steam était cassé le jour où il a sorti. BG3, alors ce n'est pas qu'il se vend pas. Je pense qu'il y a beaucoup plus de gens... Que tout le monde pense qu'ils veulent le jouer. Et je dois toujours rigoler quand ils disent niche, parce que je dis, ouais, ok, ça définit quoi niche? À quel moment, s'il y a 50-60% des gens, je sais pas si c'est le cas, mais si c'est à 50-60% des gens ne jouent pas ton jeu, est-ce que c'est niche? Est-ce que c'est 80%, c'est 90% ou 90%, ou c'est où cette barrière? Et à la fin, c'est pas important, parce que tout ce qui est important, c'est est-ce que ça nous fait suffisamment revenu qu'on peut encore une fois le faire? C'est tout ce qui nous intéresse, en fait, dans cette histoire. On a toujours fait plus grand quand on pouvait, parce qu'on veut explorer ce qui est jeu RPG. Et je pense pas qu'on va arrêter ici. On a le plan qu'on a, parce que ça, c'est ce qui est cool avec 6 ans de développement, c'est que la liste des idées pour les prochains trucs est énorme.
Revenons justement sur ces 6 ans. Est-ce qu'il y a un moment où vous avez craint de trop tirer sur la corde en termes de délai, parce que le jeu a été présenté au public avec l'acte de naissance de Stadia, qui a eu le temps de mourir entre-temps. On a eu le temps d'avoir une pandémie, de changer le monde plusieurs fois. Est-ce qu'il y a un moment où vous étiez tendu sur ça, ou est-ce que les réactions des joueurs de Early Access étaient suffisamment paisibles pour que vous vous autorisiez à continuer
Oui, on voulait pas que ça durait si longtemps, c'est sûr, mais on voulait pas qu'on fasse des compromis non plus. Alors, si ça aurait été nous, il était déjà sorti il y a 2 ans, mais il était pas prêt. Alors, il fallait prendre le temps pour le finir, sinon c'était tout pour rien. Alors, est-ce qu'on s'inquiète? Non, on a eu assez de support par les joueurs en Early Access. Il y a suffisamment de monde qui a acheté le jeu. Mais pour dire, c'était une position de luxe. Si on était dans une situation où on n'avait pas eu d'os et on n'avait pas tellement une grande communauté qui veut jouer nos jeux, c'est pas évident de faire une boîte si grande que la nôtre pendant X temps d'années et pas sortir quelque chose. On aurait probablement dû faire des compromis de n'importe quel truc, mais on n'a pas dû le faire, c'est le plus important. Ça nous a permis de faire ce qu'on voulait, et notamment mettre des choses dedans que... Personne s'y attend.
Parce que factuellement, vous êtes combien là, depuis quelques années chez l'Ariane?
Là, maintenant, on doit être 400-450 personnes.
450 personnes, oui. Pendant 6 ans de salaire à payer sans...
Ça a grandi, ce n'était pas comme ça. On a commencé à 120 personnes, après, à la fin de 12 ans, on était 120, et on a grandi vers 450. Maintenant, ce n'est pas tout pour BG3, mais c'est quand même... Ouais. significant.
Juste, est-ce que, parce que là, vous avez eu 3 ans, enfin plusieurs années d'Early Access, 4 ans d'Early Access, 3 ans d'Early Access, comment ça fonctionnait? Qu'est-ce que vous récupériez? Ça vous servait à quoi, en fait, l'Early Access, factuellement?
Bon, plusieurs choses, hein. De un, on a les joueurs qui nous disent qu'ils aiment pas ce qu'ils aiment bien. Ça nous permet, dans un marché qui est engaged, de lancer des nouvelles versions, de les modifier en fonction de ce que le joueur y veut. Qui veut dire que le jour de la sortie, les gens vont avoir un jeu qui a déjà beaucoup de leur opinion présente dedans. Parce qu'on écoute chaque fois, ce qu'ils disent. Ça nous donne aussi un word of mouth. Si on regarde maintenant, l'approval rating de BG3 est très haut. Ça veut dire qu'on a quand même trouvé, parce qu'on a eu un moment où on est tombé parce qu'ils aimaient pas ce qu'on faisait. Et ça, on a dû tourner un peu pour des bonnes raisons, parce que c'est devenu un meilleur jeu. Alors ça nous donne une communauté qui va parler avec ses amis, et je pense que l'arène, ça a toujours été le marketing. C'est pas nous qui vont dépenser 100 millions de dollars dans un truc de marketing. On a toujours été sur notre communauté, et ça nous a été notre force. Si les gens, ils aiment bien ce qu'on joue, ce qu'on fait, ils vont en parler avec leurs amis, et ça, c'est le meilleur marketing qui existe du monde. Alors ça nous donne ça. Évidemment, ça nous donne des fonds, parce qu'on a pas mal de gens qui jouent le jeu. Alors pour nous, parce que je sais qu'il y a plein d'histoires d'horreur d'Early Access, mais chez nous ça a toujours marché. Mais je pense que la clé est vraiment d'écouter. C'est que les gens, peut-être initialement ils sont sceptiques, parce que c'est un monde dans lequel on doit être sceptique. Mais si tu continues à dire voilà, vous avez dit ça, ben on n'a pas à 100% écouté, mais on a fait ça. Et puis ils voient que tout le temps, chaque fois, chaque update, il y a des choses que la communauté a demandé et que ça a modifié, au moins adressé le problème qu'ils avaient, hein, peut-être pas nécessairement de la façon qu'ils voulaient. Tu commences à avoir un lien avec ta communauté, et tu cette base-là, et partir de cette base-là pour lancer un jeu, je préfère vastement sur être en limbo pendant des années et pas savoir ce que les gens vont dire. Je voudrais pas le faire encore comme ça.
Oui.
Ça, c'est un plus grand risque, en fait, je trouve.
J'étais curieux, dans le magazine Le Vif, on expliquait que l'Ariane représentait les 3/4 du chiffre d'affaires du jeu vidéo en Belgique. De l'extérieur, on a l'impression qu'il y a une double identité, l'Ariane. Il y a à la fois ce côté ancienne petite boîte qui est capable de faire des trucs assez décontracté, on va dire, les panels From Hell où vous baladez en armure et où tout le monde est déguisé, et il y a un côté bonne ambiance. Et en même temps, vous êtes une boîte de 400 personnes. Comment vous avez géré cette croissance dans la culture d'entreprise où vous passez d'une boîte, peut-être pas d'amis, mais en tout cas de gens proches qui travaillent sur le même projet avec ce système d'itération qui veut dire beaucoup d'efforts et beaucoup d'énergie, à quelque chose de plus structuré, d'éparpillé. Et comment vous avez regardé, dans ce contexte-là, tout le bazar qui a pu émailler le monde du jeu vidéo ces dernières années, de Ubisoft à Activision, et le fait que les grandes boîtes, il y a aussi des problèmes de culture d'entreprise qui sont difficiles. Et j'imagine que ça se pose différemment quand on est 30, 400.
Oui, c'est sûr, tu as toujours, plus que tu as des grandes échelles, plus tu vas être confronté avec des problèmes de société, il n'y a rien à faire. Gérer la croissance, c'était probablement notre problème numéro un dans le temps, surtout parce qu'on a fait beaucoup de croissance pendant le Covid, qui était difficile de le faire. C'est une question avec une très longue réponse, parce qu'il y a, c'est welcome to my GDC talk. Je pense que la chose numéro un, c'est que notre équipe de base est presque encore tous là. Ça fait déjà longtemps qu'on travaille ensemble. Alors, il y a un corps sur lequel les gens peuvent retomber. On a toujours eu... Comment ?
Ces gens-là s'y retrouvent toujours dans cette entreprise qui a changé complètement de taille ?
Ils sont encore toujours là. Je présume que oui. Il faut leur demander. Mais peut-être qu'ils vont tous surprendre bientôt. Mais je n'ai pas l'impression qu'ils vont partir. J'espère en tout cas pas. Mais bon, ils sont déjà là depuis pas mal d'ans, beaucoup depuis 15 ans. Alors ça donne une solidité de tribal knowledge, si vous voulez. Alors Et on a toujours été une bande qui a beaucoup de respect pour l'un l'autre. Ça se transmet aussi. Parfois, il y a des accidents, c'est sûr. C'est inévitable quand tu as une grande entreprise, il n'y a rien à faire. C'est sûr aussi que ce n'était pas notre ambition d'avoir cette échelle pour commencer, mais on a appris qu'il fallait. Quand tu veux faire des RPG cinématiques, tu as tellement de choses qui se mettent à côté que tu as besoin de faire, parce que tu fais des films, quoi. Alors, tu as besoin de tout le crew qui vient avec un film. Alors, c'est différent. Je pense qu'une des choses qu'on fait bien, c'est de mélanger les équipes, de les faire voyager, qu'ils se rencontrent. Une fois que les gens ils se rencontrent, en général, ça marche. Je pense que dans les très grandes entreprises, c'est le plus grand problème. Tu te connais pas, c'est un nom. Quand on écrit quelque chose, c'est très vite mal interprété. Pardon, que si tu parles avec l'un l'autre, ah ben, tu mets les choses en contexte. Définitivement dans des environs haute pression comme le jeu vidéo, où il y a quand même pas mal de pression parce que c'est un marché très consolidé. Je pense que oui, je sais pas dire plus que ça parce que on gère, on a parfois des accidents, on essaie de les gérer avec le respect, mais la base, je pense qu'elle est un de nos atouts. Alors je peux pas dire plus que ça.
Vous êtes encore un... Vous avez encore les mains dans le cambouis, vous faites encore du jeu vidéo ou vous êtes devenu un patron à chapeauter des...
Ben, là, je suis moins patron et plus jeu vidéo maintenant. Parce que j'ai une équipe qui manage les choses, qui gère les choses. Je pense que je suis plus développeur vidéo que je l'étais il y a 10 ans. Maintenant, à développer un jeu vidéo qu'il y avait 10 ans. J'ai plus de temps maintenant pour me focusser là-dessus. Alors, c'est exactement ce que je veux. Alors, c'est bien. C'est l'avantage de faire ce qu'on fait. Comme on n'a pas énormément de sorties, c'est assez focusé. Si on aurait 20 sorties, ce serait une différente histoire, ce serait impossible. Mais ici, on parle que d'un jeu, ou peut-être des autres projets, mais vraiment, on est focusé sur un jeu. Alors, ça nous permet de vraiment regarder ce qu'on veut qui est mieux pour ce jeu-là. Et puis, on compte dessus, c'est notre modèle business, on compte dessus que le contenu qu'on fait est bon et que les gens ils vont l'acheter. Et si ça marche pas, bon ben, ça pose un différent problème, mais on compte dessus que ce qu'on fait est bon. Et c'est pas une mauvaise motivation pour gérer la boîte.
C'est encore un projet qui engage la vie de l'Ariane? Depuis...
Non,
c'est moins, non. Moins tranché qu'à l'époque de Divinity.
Oui, mais c'est quand même important. Ouais, oui, parce que c'est non, c'est moins tranché que... Oui, définitivement, c'est moins tranché qu'à l'époque de Divinity. C'est... Mais bon, si on vend 10 000 unités, on a un problème. Il faut qu'on en vende un peu plus que 10 000.
Est-ce que vous avez publié déjà les chiffres de précommande de joueurs en early ou pas du tout?
Non.
On peut le savoir ou pas du tout?
On va l'annoncer quand on va sortir, je pense, à ce moment-là.
D'accord.
Ça peut donner l'équipe d'édition quand même un peu d'ammunition, sinon on plus.
Vous avez cité au tout début de l'entretien, vous avez cité à peu près tous les jeux et qu'il n'y avait jamais eu une aussi grosse année depuis des années et des années pour les énormes sorties de jeux vidéo, avec quand même... notamment c'est les 3 mois qui entourent la sortie de Baldur's Gate, des jeux, on va dire, assez proches, que ce soit dans les systèmes de jeu ou dans les univers. Évidemment, on pense Diablo 4, on pense Starfield qui arrive juste après. Et en même temps, alors après, c'est une impression, j'ai pas l'impression que vous en ayez très peur, entre guillemets. Aujourd'hui, est-ce que vous... Enfin, la question, c'est un peu brute, mais aujourd'hui, est-ce que vous regardez Blizzard et Bethesda dans les yeux? Est-ce que l'Ariane, est à ce point où, ok, Bethesda, Blizzard, vous faites ce que vous voulez, mais nous, on propose, on a notre jeu, on a confiance en notre jeu, et finalement, ouais. On a peut-être peur de personne aujourd'hui.
On est confiant dans notre jeu. Je pense que ce qu'on propose est unique. Et le joueur va le décider. Mais je pense que toute notre équipe croit très fort dans ce qu'on a fait. On sait ce qu'on a fait. Et on a fait, mon équipe est au pic de
son savoir-faire.
Ouais. Son savoir-faire. Tu vois, ils ont déjà fait plusieurs jeux. Ils ont appris énormément là-dedans. Ils sont tous un peu vétérans. Ça veut dire un peu, j'ai déjà fait ça. Ils sont trop excités de le problème qui se pose. Ils disent, OK, il y a un problème. C'est bien. On va le résoudre. Alors, mais en même temps, quand vous allez voir, il y a énormément d'innovation dedans. Alors, je pense que c'est un jeu qui quand ça vient au niveau RPG, qui donne tout que ça doit être, et je pense que c'est assez unique. Ça commence avec ton identité que tu vas créer au jeu. Tu peux être un de 11 races, donc des races fous comme du Dragonborn, et le jeu va dire, ah, tu es ça, bon, on va réagir comme ça. Tu peux devenir presque toutes les classes archétypes et plus qui existent dans le jeu de rôle, mais d'une façon, avec un twist, est assez fort, je pense. Tu as un monde qui t'offre la liberté d'un jeu de pen and paper, mais d'un autre côté, tu ne fais pas lire tout le livre et qui te permet d'expérimenter les choses. On va montrer à Panel from Hell, notamment, on va montrer des conneries, mais que vous allez voir, c'est possible, ça, et puis ça va être, c'est vraiment chouette. On peut jouer avec des amis ou on peut jouer toute seule. On peut être un héros ou on peut être des héros ensemble, ce qui est assez spécial. On peut être un anti-héros, si on veut, ce qui est le jeu de rôle aussi. On peut être des anti-héros ensemble. Il y a de la romance d'une façon que je pense que les gens vont être aussi étonnés qu'il y a dedans. Il y a des caractères d'origine qui sont, disons, des histoires beaucoup plus profondes que les gens y pensent.
Ça, d'ailleurs, est-ce que ça a été toujours quelque chose de fixe dans le développement, cette idée d'avoir à la fois des custom caractères, des personnages qui sont des feuilles blanches qu'on crée de zéro, ouais, mais aussi de raconter le jeu à travers 5-6 ouais, héros qui pourraient être des héros de jeux vidéo normaux, mais en plus.
Ouais.
C'est quoi le but ? C'est pour offrir des caractères, enfin des personnages prêts à jouer pour les nouveaux venus ? C'est pour offrir de la rejouabilité ? Enfin, en termes d'écriture, enfin, vous disiez insane, mais il y a quelque chose de débile quand on imagine, quand on voit que chaque dialogue réagit différemment en fonction du personnage depuis lequel on clique, quoi. Donc j'imagine qu'en termes de derrière, c'est encore pire quand on joue.
Oui, mais ça permet une profondeur qu'il n'y a pas sinon, et ça ouvre ton marché aussi au niveau de jeu de joueurs. Il y a des gens, c'est environ 40% des gens qui jouent avec des origines, ce qu'on a appris avec DOS 2. Alors, il y a des gens qui veulent avoir une histoire, il y a des gens qui veulent avoir un blank slate. Alors, ça approche un peu ce côté-là. Au niveau créatif, ça te permet de connaître ton personnage à un niveau que tu vas pas le connaître sinon. Parce que tu vas aller regarder en first person perspective, tu vas le regarder en third person perspective. Et c'est différent. Comment est-ce que je me présente et qu'est-ce que je pense? Et si tu l'as joué et que tu l'as recruté et tu vois comment il se présente, et puis tu joues et tu dis, maintenant je sais ce qu'il pense, c'est assez chouette. Alors c'était un challenge créatif qu'on a commencé avec DOS 2, qui était assez réussi parce que ça donne aussi quelque chose. On n'a pas encore en parlé, c'est le replay value. Ce sont DOS 2 est encore toujours joué par plein de gens couramment, soit en multijoueur, soit en single player. Il y a des gens qui le rejouent, et ils prennent un de ses origines. Alors, ce qui semble débile est en fait un système de donner plus de replay aux joueurs qui sont intéressés. Comment est-ce que toutes les lignes d'histoire y vont ensemble? Et en termes de construction d'histoire, c'était dans le précédent jeu aussi. Si vous allez regarder avec un, comment on s'appelle ça? Un zoom lens,
une loupe.
Une loupe, si vous allez regarder avec une loupe, vous allez voir que chaque histoire, chaque mot, chaque phrase, ils sont connectés à l'histoire principale, simplement des autres lignes qui touchent. DOS 2, c'était la même chose. Il n'y avait aucune situation qui n'était pas écrite en fonction de l'histoire principale. Et ici, c'est la même chose. Et ça, c'est mieux quand tu le fais comme ça que si tu le fais de ces histoires, first person. Ce qu'on appelle le système d'origine.
Merci beaucoup. Je pense que si je laisse Marius, il vous pose des questions encore pendant 3 heures, mais je crois que nous sommes arrivés au bout.
Merci
beaucoup pour votre temps, et puis forcément, on va suivre ça, et puis on va suivre, nous, dès la rentrée, le lancement de Baldur's Gate 3. Et puis, voilà. Merci, bonne chance pour les dernières semaines de développement.
Ouais, merci beaucoup.
Merci.
Au revoir.
À bientôt.
Au revoir. Voilà, tu ramasses ça, tu retournes devant la statue avec ton petit truc de prière, tu ouvres ton inventaire, tu lis la page de prière, et tu désamorces le piège.
Incroyable.
et tu trouves un joli pendentif hyper important, hyper bien pour les combattants au corps à corps, puisqu'il désactive les attaques d'opportunité de tes ennemis.
Eh ben,
voilà.
Incroyable.
C'est à peu près ça le délire.
Incroyable. Eh ben, merci beaucoup. Hein.
Ce qui manque, ce qui aurait été marrant, c'est d'aller au camp de gobelins. Pas forcément pour bastonner tout le monde, mais pour voir qu'on peut discuter avec les gobelins, faire un ami avec eux, et qu'ils peuvent te donner des quêtes.
Et ça, d'être au premier run, tu l'avais pas fait, discuter avec les gobelins?
Non, j'étais au camp de gobelins, j'ai fait une connerie, je me suis retrouvé avec 4000 gobelins sur le dos, et c'était un combat de 3 quarts d'heure. Vraiment un truc de mort de faim où je comprenais à peine les systèmes d'emplacement de sorts et compagnie. Je comprenais pas pourquoi je pouvais pas lancer tous mes sorts et machin. Les premières fois, c'était laborieux, hein, c'est sûr. Mais
incroyable. Incroyable. Non, mais franchement, bien, bien cool. Est-ce que tu peux sauvegarder, là, au cas où
J'ai fait une nouvelle sauvegarde Nid'Ourcibou à 3h58. Et oui, si tu veux relancer une partie un soir, fais signe.
Ce jeu donne le vertige un peu en vrai. Oui, hein.
Ouais, et là, franchement, on a fait que gratter le petit truc, parce qu'il y a vraiment des trucs qui sont rigolos, quoi.
Ah oui, on
et encore une fois, ce n'est que l'early access. Et je pense que, et j'espère que le jeu tiendra ses promesses, parce que, mais si c'est le cas, c'est un jeu de taré. Mais vraiment, je saoule tout le monde en assis dans son jeu avec ça, mais parce que je suis vraiment persuadé que si le jeu est aussi bon que le promet l'early access, c'est
c'est quasiment
déjà
historique, quoi. Enfin, il y a
le GOTY pour moi, mais je pense que c'est un jeu qui va marquer, enfin qui mais même là, c'est un jeu qui est tellement étrange. C'est des moyens de triple A. Alors certes, un tout petit peu moins beau dans les cinématiques que ce que peuvent faire les plus gros studios, mais avec, tout est doublé, tout est bien doublé.
Ouais.
Y a un nombre de possibilités complètement folles. Déjà rien que ça, c'est cool. Mais si le jeu va au bout de ses promesses, je pense que c'est un truc assez assez barjo, historique et assez parfait. Enfin, peut-être que j'en rajoute, mais dans l'équilibre entre la liberté qu'il donne en termes d'approche de gameplay, parce que c'est vraiment différent de jouer un barbare, de jouer un mage, c'est vraiment des expériences différentes. Tu peux te marrer avec l'un et pas du tout avec l'autre. Y a une cohabitation entre cette liberté de gameplay et la liberté en termes de narration qui est vraiment super excitante. Parce que quand on entre en combat, on est tout excité, c'est cool, ça va être un combat. Et quand on entame un dialogue qu'on ne connaît pas,
oui,
c'est aussi marrant, en fait.
Oui, c'est aussi pareil. Ah ouais.
Ou quand on entame un dialogue qu'on connaît et qu'on a déjà fait et qu'on lui donne un tour complètement différent qu'on n'imaginait pas une seconde, c'est effectivement, il y a un truc de vertigineux, parce que tu te dis, mais si je peux faire ça, ça veut dire que je peux aussi l'entraîner sur ce chemin-là et faire en sorte que bidule. Et c'est génial. Enfin, il y a des moments vraiment où j'étais avec un petit sourire débile.
Mais le truc que ça veut dire qui semble là pour le coup totalement vertigineux, c'est-à-dire que c'est un jeu qui va durer entre 100 et 150 heures sur un run, mais que finalement tu peux imaginer avoir 25 autres runs totalement différents avec des classes, des races, des sous-classes, des trucs totalement différents, et puis en plus choisir tel alignement, tel autre type de dialogue, ce qui fait que pour ne serait-ce que voir un tout petit peu des différentes possibilités qu'offre le jeu, c'est 300-400 heures de jeu les doigts dans le nez, quoi.
Ouais, bah moi, tu vois, je suis
rien sur l'early access, t'en es à 350.
Là, j'étais en train de regarder, j'ai 12 builds différents, ils sont pas tous au bout de l'early et machin, mais c'est beaucoup trop par rapport à l'état du jeu. Mais oui, enfin, faire le jeu en essayant d'être de suivre son serment de dévotion, c'est-à-dire vraiment venir en aide aux pauvres et aux démunis, aux gentils et machin, sans faire de conneries, rien que ça, c'est un petit défi. Quand tu fais une connerie, le jeu t'ouvre une nouvelle porte que tu ne soupçonnais pas, qui est super marrante. Et vraiment, c'est super excitant. Et quand tu fais le jeu en voleur, c'est encore différent. Enfin, vraiment, t'as des expériences qui sont.
Ouais, c'est.
T'as une approche du jeu différente. Et ça, c'est vrai pour ton build, mais c'est vrai aussi pour pour ton build, plus les compagnons qui t'accompagnent, où il n'y aura pas les mêmes réactions.
Ah, mais oui, en plus,
tu vas avoir
des
moments
des
de tension et machin. Et en plus, tu as cette histoire d'origin story qu'on ne mesure pas. Et en plus, voilà, le truc qui m'excite le plus, c'est le Dark Urge, là, qu'ils ont présenté. En gros, il y a un compagnon qui se rajoute en dernière minute, qui n'était pas annoncé jusque-là, qui est un compagnon normal, mais qui est aussi un compagnon jouable et qui a la particularité d'être customisable.
Oui.
On peut choisir sa classe, choisir son apparence, contrairement aux autres qui ont des builds, qu'on peut tordre un petit peu dans un sens ou dans un autre, je pense. Mais Shadowheart restera une claire je vais me taire. Et voilà, mais le Dark Urge, c'est un personnage qui a une histoire, qui a l'air d'avoir une histoire hyper tendax et hyper importante dans ce que je crois comprendre et ce que j'ai entendu et lu dans le lore de Baldur's Gate. Mais vraiment, genre, je pense que le personnage à lui seul, c'est un personnage de héros de jeux vidéo bien écrit.
Ouais.
Mais en même temps, et qui te pousse, et c'est ça qui m'excite le plus, c'est que on a tous tendance à vouloir être bon dans un jeu vidéo avec des petits moments où on déride un petit peu le truc. Là, c'est un personnage qui incite clairement, enfin, qui a des pulsions meurtrières et machin, et je pense que c'est un personnage qui doit être très excitant à jouer quand tu essayes d'être bon et de te tenir ta ligne de crête. Et en même temps, qui doit être aussi très excitant à jouer en mode complètement full chaotique, bad, enfin, evil.
Ils font
la caisse, quoi.
Ouais, non, là,
ça a l'air d'être vraiment le monstre libérer la bête, quoi.
Ah ouais. Bon, bah, finalement, on va peut-être annuler la saison 17, hein. Pas ce que t'en penses, mais.
Moi, c'est un peu ma crainte. C'est le moment où il va falloir allumer Starfield et que je n'aurai rien à péter, quoi. franchement, il a l'air sympa, Starfield, mais.
Ou alors, on repousse la saison 17 à janvier. Tu vois, on se laisse la fin 2023.
Ça aurait du sens.
Ouais. Ça aurait du sens.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.